livre de l'année 2010. Alors cette année, il y en aura un petit peu moins que l'année dernière. Je vous rappelle donc le principe des rencontres au coin du livre, ce ne sont pas des conférences. Le but de ces rencontres ne sont pas non plus de présenter un livre. Hein, le nom « Rencontre au coin du livre » se voulait être au départ un lieu, un appel à se réunir dans la librairie autour des livres. Voilà. Et éventuellement présenter un ou quelques ouvrages qui avaient touché l'orateur, celui qui venait faire la causerie. Mais le but principal était donc bien d'avoir une causerie, une discussion, une conversation entre quelqu'un qui introduisait la conversation autour d'un sujet et le public, donc reprenant cette discussion, ce thème abordé par le biais de questions, de remarques, d'interpellations, pourquoi pas. Donc ce sont des rencontres qui se veulent avant tout libres. Alors je vous invite à vous déstresser, à vous détendre, à préparer vos questions, vos remarques, vos interpellations. En général, on ne les prépare pas, elles sont spontanées. Mais voilà, n'hésitez pas pour que ce puisse être quelque chose de vivant. En tout cas, que ce soit tout sauf une conférence. Hein, donc c'est bien ce que j'ai expliqué à M. Prunier et nous sommes ravis d'accueillir ce soir avec nous le pasteur Prunier, qui va nous présenter donc rapidement donc le thème de ce soir, pasteur un parcours, trois petits points, un sujet ou une présentation de sujet assez flou, volontairement, car le but étant de présenter non pas le pasteur de manière théorique, mais bien le parcours d'un pasteur, hein, il y a une multitude de parcours, peut-être M. Prunier nous en parlera, évidemment, son parcours n'est sans doute pas le parcours de tous les pasteurs, mais voilà, comment lui il l'a vécu, quelle a été sa formation, ses expériences, ce qu'il en retient, bonne ou mauvaise, ainsi de suite. Voilà, donc cette présentation, je pense, sera assez personnelle, et en tout cas, c'est notre souhait pour qu'ensuite nous puissions nous connaître un peu plus, et connaître aussi. Nous avons eu l'occasion de recevoir, il y a quelques mois maintenant, le pasteur Pascal González des Églises réformées évangéliques indépendantes, ce qui nous a permis de découvrir ce milieu-là aussi, que l'on connaît peut-être un peu plus hein, dans la région. Mais ce soir, ce sera l'occasion de découvrir la grande Église, qui est l'Église réformée de France, puisque M. Prunier est pasteur des ERF. Voilà, merci d'être venu. Je vous laisse la parole.
Eh bien, merci. Bonsoir. La grande église, oui. Enfin, quand même, 2% hein, en France. On reste calme.
Par rapport au protestantisme.
Oui. Oui, ma première question à moi, c'est pourquoi est-ce qu'on m'a invité ce soir ? Un petit pasteur de Florac, qui s'intéresse simplement à quelques brebis perdues de Lozère, alors qu'il y a tellement de grands professeurs qui viennent. Mais je voudrais déjà vous dire que je ne parle qu'en mon nom propre. Je ne parle pas au nom de mon église. Hein. Que les choses soient claires aussi, là, parce que n'importe qui de mon église ne dirait pas la même chose, forcément. J'ai choisi justement l'ERF pour exercer mon ministère, parce que j'y ai trouvé la liberté d'expression, la liberté, et puis aussi pour son engagement dans le monde. Et puis aussi parce qu'elle a bien voulu de moi. Hein. Je vous propose donc deux thèmes de base. D'abord, pourquoi vouloir être pasteur ? Vous savez qu'être pasteur, c'est beaucoup plus que 65 heures par semaine. Ça n'est pas le SMIG. Et c'est beaucoup de kilomètres. Enfin, c'est beaucoup de difficultés. Et puis après, je vous dirai ce que c'est que d'être pasteur. Pour qui ? En ce qui me concerne, c'est une trajectoire très personnelle qui m'a fait vouloir être pasteur. Je pars d'un milieu familial qui est très, très teinté d'éthique, très fortement éthique. D'où culpabilité, forcément. D'où une recherche pour sortir de cette espèce de dilemme que je crois que tout le monde peut avoir un jour ou l'autre quand on est jeune, en tout cas. Je voudrais être saint et je suis un salaud. C'est difficile de sortir de ça. Et puis, il y a des questions personnelles, je crois que tous les adolescents l'ont connu. Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Pourquoi suis-je là ? Pourquoi dois-je mourir ? Qu'y a-t-il après la mort ? Et puis, ça peut vous amuser peut-être aussi, mais j'avais une petite sœur qui était plus petite que moi. J'avais 5 ans, elle en avait 4, et j'allais l'évangéliser. J'allais avec ma Bible dans sa chambre pour lui lire la Bible. Elle ne savait pas lire. Mais ça fait longtemps. Et puis, j'ai eu deux pasteurs dans ma vie. Deux pasteurs, mais je vous dirais que ce n'est pas forcément un bon témoignage. Le premier, c'est celui qui a fait mon catéchisme. Il n'a répondu à aucune de mes questions, ni existentielles, ni quelque ce qu'elles soient, si bien que j'ai refusé de faire ma communion. Le deuxième, c'est quand j'avais toujours cette recherche à Béziers, lorsque j'étais laborantin d'analyse médicale, j'étais voir le pasteur de Béziers, je lui ai demandé « qu'est-ce que c'est que la foi ?» Il m'a tendu un bouquin, il m'a dit « tenez, lisez ça ». Ce n'est pas ce que j'appelle des témoignages qui amènent et qui nourrissent la foi. Ce n'est pas ça, en tout cas, qui me l'a donné. Alors j'ai cherché, comme beaucoup de gens l'ont fait, dans la gnose. La gnose, c'est le rosicrucianisme, la théosophie. C'est aussi l'alchimie, qui est une forme de mystique chrétienne. J'ai trouvé aussi dans les philosophies extrêmes orientales, les yogas. Yog, c'est la racine sanscrite du joug, de ce qui relie la religion. Qui est, toutes ces choses-là ont un point commun, c'est le déni de la mort, tout sur l'homme et rien sur Dieu. J'ai dû manger, donc j'ai dû travailler. Il y a donc là aussi quelque chose qui m'a amené à travers une trajectoire professionnelle. J'ai fait des études scientifiques. Je voulais être médecin, non pas par goût, mais par idéologie familiale, je dirais. Mais j'ai pas pu, d'abord parce qu'il y a eu mai 68. Et ceux qui ont connu mai 68 savent quoi, difficile de passer à côté, sans s'engager un petit peu. Et puis surtout, j'ai un dégoût du sang tel que ça, je ne pouvais pas approcher un blessé. Alors je me suis fait laborantin d'analyse médicale. C'est beaucoup plus simple. Au moins, on ne tripote pas le sang. Mais j'ai quand même passé 11 ans de ma vie à lire des lames de sang colorées. Et c'est là que j'ai rencontré une expérience que, je crois, m'a beaucoup interpellé. J'allais partir en vacances, c'était un samedi soir, vers les 4 heures. J'avais une des dernières lames de sang à lire. Vous savez, quand on lit une lame de sang, en principe, on compte les différentes cellules qui la composent. Il y a en principe 6000 cellules blanches, globules blancs par millimètre cube. Mais quand vous en avez 60 à 80 000, vous dites, là, il y a un vrai problème. Et quand en plus, ce sont des grosses cellules bien verdâtres, qui sont des cellules, ce qu'on appelle les cellules souches, on sait qu'il s'agit d'une leucémie leucoblastique aiguë. C'est un mot grave, mais quand j'ai demandé à qui appartenait cette lame, on m'a dit « Oh, c'est la fille d'un docteur ». Il l'a trouvée fatiguée, il a fait faire une analyse de sang. Elle avait 7 ans. Je suis parti en vacances, je suis revenu la semaine d'après, elle était morte. Là, je me suis dit « Il y a une vraie question. Où est Dieu dans ces cas-là ? Où est Dieu ? Pourquoi est-ce qu'une gamine de 7 ans doit mourir comme ça, laissant sa famille dans le deuil ? Où est Dieu ? Pendant que j'étais à Béziers, j'ai eu aussi une trajectoire politique, ou plutôt associative. J'étais président de l'association d'écologie de Béziers à l'époque. J'ai beaucoup lutté contre le plomb dans l'essence, vous voyez, ça marche quelquefois. Et puis j'ai eu une nouvelle question. Si Dieu est créateur, pourquoi laisse-t-il sa créature, l'humain, tout détruire? Et je dirais que ma question est toujours de plus en plus prégnante. Enfin, j'ai eu une trajectoire familiale, comme tout le monde. J'ai eu une série de deuils familiaux. Et cette série de deuils m'a fait poser la question, mais où est ma famille? Qu'est-ce que c'est que ma famille? J'étais tout seul. J'ai donc fait des recherches généalogiques, comme chacun, et j'ai trouvé dans ma famille des pasteurs méthodistes en Cévennes, au Vigan, entre autres. À Omessas, si quelqu'un connaît Omessas, le plus joli village du monde. Avec une tombe, qui est celle de mon arrière-grand-père, pasteur méthodiste. Et ça pose une question, pourquoi ces gens-là étaient pasteurs? Et je me suis demandé, mais en qui ont-ils cru pour accepter, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez la vie d'un pasteur méthodiste au XIXe siècle, mais c'est impensable. Ce serait inimaginable alors qu'il est. Alors tout ça, ça m'a fait poser la question de me demander qui est Dieu? Qui est ce Dieu qui peut forcer les gens à se mettre à son service à n'importe quel prix? Donc, où est Dieu? Que fait Dieu? Qui est Dieu? Ça fait beaucoup de questions. Avec l'accord de ma femme, j'ai fait des études de théologie. Elle m'a beaucoup aidé d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de difficultés. N'oublions pas que j'ai une base scientifique. Et de se mettre à la dogmatique et à la philosophie, c'est pas simple. Mais j'avais beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de réponses. J'avoue que ça a été pour moi quelques-unes des meilleures années de ma vie, que d'être confronté à ces gens qui croyaient qu'il y avait deux choses essentielles. Ils étaient intelligents et croyaient, ce qui est quelquefois considéré comme impossible à mettre ensemble. Eh bien, j'ai eu la preuve du contraire. Mais j'ai eu une approche, je dirais, intellectuelle de la question Dieu. Alors je sais à qui je parle, en tout cas dans la grande majorité, mais je voudrais vous dire à tous que l'approche intellectuelle n'est pas forcément impossible, et qu'elle est aussi valable que n'importe quelle autre. En tout cas, elle est aussi valable que l'approche émotionnelle, ou spirituelle, ou simplement mystique. Alors en faisant ces études de théologie, je me suis rendu compte que je deviendrais pasteur tout simplement pour donner aux autres ce que j'ai moi-même reçu. C'est à peu près ça. Alors, être pasteur, mais pour qui? D'abord, c'est pour répondre aux questions que se posent les gens. En premier lieu, je dirais qu'il faut déjà corriger le tir. Je m'explique. Actuellement, à Haïti, un des pays les plus pauvres du monde, il y a une ville qui s'appelle Port-au-Prince, qui est une des plus pauvres du monde, qui est habitée par une population extrêmement pauvre, extrêmement dense, et cette population-là reçoit un tremblement de terre. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas, vous connaissez aussi cet épisode raconté par Elie Wiesel, alors qu'il était en camp de concentration. Ils sont venus pour assister à la pendaison de deux personnes, un enfant et un adulte. L'adulte est mort tout de suite, il était lourd, il a été étranglé tout de suite, mais l'enfant, lui, il gigotait. Et le type qui était derrière Elie Wiesel disait, mais enfin, où est Dieu? Où est Dieu pour permettre ça? Où est Dieu? Elie Wiesel lui dit, en montrant l'enfant, mais il est là. Il est là. En fait, on cherche Dieu là où il n'est pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut corriger le tir. Et c'est ça que j'apprends aux gens, que j'essaie de leur dire. Ne cherchez pas Dieu là où il n'est pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les catastrophes, il n'est pas dans les grandes choses, il est sur la croix et nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime tellement Paul, qui parle toujours d'un Christ crucifié et ressuscité, la seule chose qui compte. Ne cherchez pas Dieu ailleurs, il n'est sur la croix. Quand on sait ça, on sait quelque part qu'il y a le salut derrière, qu'il y a tout ce qui nous attend derrière, et qui fait que nous ne devons pas nous rester accrochés à un événement, quel qu'il soit, mauvais ou bon, mais surtout un événement du style de ce qui se passe actuellement à Haïti, ce qui n'empêche pas de les aider, hein. Je pense que là où est Dieu, c'est sur la croix et pas dans la toute-puissance. L'Église réformée, c'est le synonyme, c'est l'Église calviniste. Moi, je vous dirais que je suis très proche de Luther au niveau, théologique. J'aime beaucoup Luther quand il dit qu'il y a deux dieux. Un dieu caché, dont on ne sait pas ce qu'il fait, celui justement qui se cache derrière les grands drames, comme celui d'Haïti, et un dieu révélé, qui est le Christ crucifié et ressuscité. Et c'est celui-là qu'on peut connaître, et pas un autre. Deuxièmement, la deuxième question qui ne se pose plus tellement d'ailleurs, où est mon salut ? Il y a des gens qui viennent me dire où est mon salut, mais ce n'est plus tellement ce qu'on vient me dire, ça c'est plutôt 19e. Maintenant on vient me dire quel but, quel est le sens de ma vie ? Ça je crois que c'est une vraie question qui se pose maintenant cruellement, je dirais, en tout cas aux jeunes. Alors que ce soit le sens de la vie ou le salut, on peut mettre, disons, les deux choses, mais il y a trois grandes moyens d'atteindre à son salut. Il y a le salut par la connaissance, le salut par les œuvres et le salut par la foi. Alors le salut par la connaissance, on en a parlé tout à l'heure, c'est la gnose, essayer de se réaliser par soi-même, et alors Dieu ne nous sert que de prétexte. Le salut par les œuvres, c'est ce qu'on a longtemps cherché en catholicisme et qui a été abandonné par grâce à Luther au XVIe siècle, c'est-à-dire de faire son salut en faisant le bien pour compenser le mal que je fais d'une part et être aimé de Dieu. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, en tout cas Paul, parce que je reviendrai là-dessus. La Bible dit deux choses. La Bible dit le salut c'est, par la foi seule, c'est bien, mais si la foi n'est pas acceptée, ça ne sert à rien. J'ai une expression pour ça. Imaginez que vous êtes dans le Titanic. Il coule. Vous êtes en train de barboter dans l'eau. Bon, vous me direz, il n'y avait pas d'hélicoptère à l'époque, mais imaginez un hélicoptère dans les airs qui vous envoie une bouée avec un fil. Vous avez le choix. Vous barbotez, vous avez froid, vous barbotez, vous savez que vous allez couler. Vous avez la bouée qui est là à votre portée. Qu'est-ce que vous faites ? Vous tendez la main ou vous ne l'attendez pas ? Si vous ne l'attendez pas, vous coulez. Si vous l'attendez, vous accrochez, vous êtes remonté. C'est ce que j'appelle le salut par la foi seule, la foi dans cette bouée, mais à condition de tendre la main pour la saisir. J'ai trouvé ça dans la Bible, cette tension entre le salut par les œuvres et le salut par la foi, qu'on trouve entre, par exemple, Paul d'un côté, Matthieu de l'autre, et qu'on trouve résumée dans l'épître de Jacques, très bien, très intelligemment. Jacques est quelqu'un à lire, qui montre bien cette dichotomie fantastique, ce besoin des deux, ce tricotage entre les deux. Donc, que fait Dieu ? Ben moi je leur dis, ben il me sauve. Il me sauve en Jésus-Christ. La troisième chose que je dis aux gens, c'est le refus de tout sectarisme. Personne n'est propriétaire de la vérité. Il n'y en a qu'un qui l'est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais aucun de nous ne peut prétendre avoir la vérité. Aucun. Christ est un pour tous, mais ça n'empêche pas la multiplicité des langages sur Christ. Et c'est ce que j'aime personnellement. Je suis très attentif à toutes les manières dont les gens parlent de Christ ou de Dieu, de manière à me faire moi-même ma propre opinion, ce qui ne change pas grand-chose concernant l'Église dans laquelle je suis, mais qui en tout cas m'enrichit dans cette connaissance, dans ce besoin de connaître Dieu qui m'habite et qui vous habite tous, j'imagine. C'est aussi le refus de ce que j'appelle la bibliolâtrie, c'est-à-dire de prendre le texte comme un texte saint. Pour moi, il n'y a que Dieu qui soit saint. Le texte est une traduction d'un texte ancien, en grec et en hébreu, qui a été écrit entre 2000 et 2500 ans, pour les plus récents, dans une culture qui ne nous appartient plus, et parlant de choses dont nous ne savons plus très bien de quoi il s'agit. Je crois qu'il il y a une nécessité de l'exégèse, c'est-à-dire du travail scientifique sur le texte biblique. Ça, je sais que je vais en heurter quelques-uns, mais c'est comme ça. C'est peut-être ma formation scientifique qui m'a porté à un regard, je dirais, scientifique sur le texte. Mais c'est comme ça, en tout cas, que je le prends. D'autant plus que je pense que si la Bible est un texte qui est daté et connoté culturellement, toute religion est inclue dans une culture. L'islam est inclus dans la culture arabe, mais le christianisme est inclus dans une culture judéo-chrétienne. D'ailleurs, c'est comme ça que je refuse de voir dans le christianisme la seule voie qui mène à Dieu. Toutes les voies qui sont donc des religions s'inscrivent dans des cultures, et toutes les cultures sont porteuses de religions. Et donc, je dirais que quelque part, Dieu est au sommet d'une grande montagne, et que tous les chemins qui y mènent, mais aucun chemin ne se croise. Ou il y en a qui se croisent. Alors là, c'est la question: qui est Dieu? Je dirais que Dieu est l'homme qui nous aime et qui est un homme comme nous, en Jésus-Christ. La plus grande découverte que j'ai faite, c'est la manière dont les Grecs écrivent le Christ. Vous savez, c'est un grand qui. Un grand qui, c'est comme une croix barrée, comme ça. Il y a en haut le monde des hommes, en bas en haut le monde de Dieu, en bas le monde des hommes. Le point de rencontre entre les deux, c'est Christ. Mais c'est aussi quelque chose qui fait que le monde de Dieu et le monde des hommes se rencontrent. Et ce moment précis, ce moment dont personne jamais n'aura la connaissance de son vivant, c'est la résurrection. Je crois que tous les chrétiens peuvent dire que le seul endroit où ils ne peuvent pas, accéder, ni par la connaissance, ni par la mystique, ni par aucun moyen, c'est la résurrection. C'est pour ça que moi je ne fais qu'un synode par an, et c'est le samedi saint, parce qu'il n'en parle pas d'un lieu. Deux mots sur les difficultés du ministère. Si un jour vous avez l'intention d'être pasteur, il faut quand même que vous le sachiez. Vous serez confronté à l'indifférence. La déchristianisation est une réalité. Il y a existé actuellement en France une nouvelle religion qui s'appelle le laïcisme. Et elle est très, très prégnante. Et elle bouffe le christianisme. Et puis, il y a ce refus qu'ont les gens de se poser calmement, tranquillement, sur une chaise, de manière à se poser des questions existentielles. Nous sommes dans le règne de l'immédiateté. Il faut tout de suite. Ce qui fait qu'on n'a plus le temps de réfléchir, qu'on n'a plus le temps de méditer, qu'on n'a plus le temps de lire, qu'on n'a plus le temps de rien. Il y a ça, mais il y a aussi l'atomisation, je dirais, de la communauté. On n'arrive plus à regrouper les gens. Là, c'est un miracle. C'est ce que je disais à monsieur
Belloir.
Voilà. J'ai jamais vu autant de monde dans mon temple. C'est merveilleux. Mais arriver à réunir des gens le dimanche matin, surtout à Florac, on dirait, hein. Ok. Je crois que c'est un peu partout pareil. Et quand il fait froid, on reste devant sa télé et on regarde des émissions religieuses. C'est tellement plus simple que d'aller au temple où on va se geler. Oui, mais au temple, on rencontre tous les autres. Il n'y a plus ces rencontres. Les gens ne l'en veulent plus, ils n'en ont plus besoin. Ils vivent pour eux, tout seuls, dans leur coin. Et on s'étonne après qu'on les retrouve, 2 ans après, morts dans un appartement où personne ne va jamais. Nous sommes dans le règne de l'immédiateté et de la solitude. Et puis, moi, ce qui me fait le plus mal, alors que j'adore la Cévenne, que je trouve que c'est un lieu magnifique, c'est le plus beau des lieux du monde, eh ben, le protestantisme y est, il est très présent, mais c'est une coquille vide. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de protestants que j'enterre, parce qu'ils sont protestants, mais qui n'ont jamais lu la Bible, n'ont jamais été au temple, ne savent pas de quoi il s'agit. La famille regarde la télé pendant que je discute avec la grand-mère, parce que le grand-père est mort. Tout le monde, mais c'est vraiment, c'est plus que de l'indifférence, il n'y a plus personne, quoi. C'est une coquille vide. Alors, ils répondent bien, oui, je suis protestant, mais quand on leur demande, et votre foi ? Ah, ma foi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne crois en rien. Alors, personnellement, si on me demande si le protestantisme est une nécessité, comme, je dirais, comme refuge identitaire, moi, je dis non. Pour moi, le protestantisme, c'est l'affirmation de ma foi, comme on disait au XVIe siècle. J'affirme ma foi, je suis protestant, je m'autorise à affirmer publiquement ma foi. Ce sont en tout cas, pour moi, les grandes difficultés que j'ai à Florac. Mais je les avais aussi au Vigan. Je les avais un petit peu moins à Bagnols-sur-Cèze où j'étais avant, mais c'est un peu pareil quand même. Alors, le bonheur d'être pasteur, parce que c'est un bonheur d'être pasteur. Comme je vous le disais, on est mal payé. Oui, tu as cherché quelque chose. On est mal payé, on travaille plus que la moyenne, surtout le dimanche. Mais c'est un moyen de pouvoir exprimer l'amour qu'on a pour les gens, sans pour autant qu'ils nous prennent pour des gens, disons, avec des mœurs particulières. On peut leur dire aussi ce qu'on croit. En tout cas, moi, je peux leur dire, j'ai le droit, je me sens le droit de leur dire ce que je crois, sans les forcer à croire ce que je crois, en les laissant libres, mais en les invitant à cette espérance qui m'habite. C'est aussi pouvoir cheminer avec eux, dans la même recherche de Dieu. Parce que malgré tout, c'est toute une vie, cette recherche. On n'a jamais Dieu en face de soi, en disant, j'ai atteint la fin de mon trajet, et ça y est, maintenant j'ai plus rien à faire. On le cherche. Et pouvoir aussi les accompagner dans leur désert. Il y a un terme dans la Bible, le mot désert, qui revient très très souvent. C'est le lieu où Dieu se trouve, où on rencontre Dieu. Mais le désert, c'est avant tout l'endroit de la mort, l'endroit où il y a des scorpions, des vipères, où il n'y a rien à manger, où il n'y a rien à boire. C'est l'endroit de la mort, c'est un endroit dangereux, et c'est l'endroit où, de la solitude, où, en tout cas, les grands patriarches ont tous rencontré Dieu. Je crois que les accompagner dans leur désert, pour les accompagner par une parole qui les aide, parce que ça les aide quand même, vous savez. Ils sont peut-être protestants, mais ils ne sont plus chrétiens, ils ne sont plus rien. Mais quand on fait quelque chose, tranquillement, une parole, lire une parole, méditer une petite parole sur une tombe, ils emmènent cette parole et ça leur permet de trouver un chemin de consolation, de deuil. C'est donc important. Et puis enfin, c'est surtout pouvoir servir celui en qui je crois et qui m'a vraiment, vraiment, je peux le dire publiquement, tout donné. Alors j'avais prévu une conclusion, mais c'est vous qui allez me la faire. Si vous avez des questions, des remarques, des compléments d'information sur le fait d'être pasteur, sur le désir d'être pasteur, à propos, si vous voulez être pasteur, je vous ai amené quelques petits dépliants, pour les prendre, ça vous permettra de prendre contact éventuellement avec la faculté de théologie de Montpellier, d'Aix, de Paris, de Strasbourg, on en a quand même le choix, même de Vaux-sur-Seine, et de devenir un jour pasteur, parce que c'est quand même, je crois, le plus beau métier du monde.
Merci.
Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques à faire suite à ce que nous venons d'entendre. Moi, j'ai une première question. Alors, pourquoi le protestantisme est une coquille vide ? Qu'est-ce qui l'explique ?
Qu'est-ce qui l'explique ?
Eh oui, qu'est-ce qui l'explique ? Pourquoi c'est une coquille vide ?
Je parle du protestantisme cévenol, qui est un cas particulier du protestantisme français. Le protestantisme cévenol est un protestantisme qui a été laminé. ce sont des gens qui ont été martyrisés pendant des siècles, aussi bien par les hordes de Paris que par la misère. C'est quelque chose qui fait que, quelque part, on est confronté. Cette foi qui les a maintenus pendant tellement longtemps, un jour s'est trouvée libérée et n'était plus nécessaire. Je crois que c'est ça qui a fait l'abandon de la foi en protestantisme cévenol, c'est qu'elle n'était plus nécessaire. Il n'y avait plus besoin de la foi pour se défendre. On n'avait plus besoin des psaumes et de ce Dieu sur un rocher, Dieu mon roc, on n'avait plus besoin de ça. D'autre part, c'était un lieu, le protestantisme cévenol, où les petits apprenaient la Bible, à lire dans la Bible. Maintenant, on apprend à lire à l'école. Tout le monde sait lire. Et tout le monde, maintenant, a de quoi manger. Du coup, le protestantisme n'est plus nécessaire. Et je crois aussi que c'est aussi la loi de séparation des églises et de l'État, que personnellement, je ne renie absolument pas, mais qui fait plus de mal en Cévennes, dans un lieu qui est relativement isolé, quand même, que dans un monde plus citadin. Et puis, ce ne sont pas des gens qui ont le temps de réfléchir. Il faut savoir, je ne sais pas ici, mais si vous allez du côté de Florac, vous verrez les petits, comment ils ont creusé dans la montagne, ces bancelles qu'ils appellent. Il faut voir ce travail qu'ils ont fait. J'ai enterré une dame qui habitait dans un petit village, mais quand je dis village, c'est 3 maisons, hein. C'était la dernière. C'est une dame qui avait 98 ans, qui est montée sur un tabouret pour nettoyer le dessus de sa cheminée. Le problème, c'est qu'elle a pris les deux pour en même temps. Le tabouret a basculé, et c'est qu'elle s'est connue fermue, elle a été à l'hôpital, elle en est morte. Il a fallu l'enterrer. On a gratté dans le bancel où ils sont tous enterrés. On remue trois pelles, on a déjà les os qui ressortent. Ils sont tous là, les uns sur les autres. Et quand ils sont bien enterrés, on gratte dessus pour manger. Alors ça a été pendant des siècles. Maintenant, ils en sont sortis. Ils n'ont plus besoin. Je crois quelque part qu'il faut rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, on rencontre Dieu dans son désert. Si on n'a pas de désert, on n'a pas besoin de Dieu.
Mais quand même, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une solitude, qu'il y a aussi un désert aujourd'hui.
C'est autre chose. C'est une solitude, je dirais, qui participe d'une idéologie. Qui refuse la communauté. Maintenant, on n'a plus besoin de se retrouver ensemble pour discuter de la parole de Dieu, pour entendre une prédication. On n'a plus besoin. On préfère rester effectivement à la maison parce qu'on a bien chaud, parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir les autres. On préfère regarder la télé parce que c'est plus facile. On a plus ce réflexe de retrouver les autres quelque part.
La souffrance du deuil, la souffrance de la maladie, ça c'est éternel, je veux dire, oui. Ça a toujours été, c'est oui. Toujours. Donc il y a quand même des gens qui sont aujourd'hui en souffrance oui. Et qui ont besoin d'entendre une parole de oui. Consolation, d'espérance. Alors pourquoi le protestantisme est plus ce refuge? Pourquoi il est cette coquille vide?
Ben, je le disais tout au début, là, j'ai encore une expérience qui s'est passée au Vigan quand on était là-bas. Une grand-mère qui faisait partie du conseil presbytéral, qui élevait son petit-fils. Le petit-fils rentre à la maison en mobylette et il rentre contre une borne et il se tue. Le jour au lendemain, la grand-mère a dit « Moi, j'en veux pas. Je veux plus de ce Dieu qui tue mes petits-enfants. » C'est ce que je disais, il faut qu'on change la vision que les gens ont de Dieu.
Le message.
Le message, oui. Dieu n'est pas un Dieu tout-puissant. Ça, on veut essayer de nous le montrer. Ce n'est pas vrai. C'est un Dieu qui est sur la croix. Le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu tout-puissant de l'islam. Ou de certains évangéliques américains. Je dis américains. Je ne veux pas avoir d'histoire.
Oui.
Peut-être une question un peu personnelle dans vos yeux professionnels. Vous avez une recherche au départ, c'est intellectuelle et plutôt déiste.
Oui.
Cherche de Dieu. Beaucoup de jeunes comme ça passent. Et à un certain moment, vous avez, il me semble, vous avez parlé de Paul, la découverte d'un Dieu qui meurt sur la croix en Christ. Mais il me semble que vous n'avez pas donné le lien. Parce qu'à un certain moment, le côté intellectuel s'arrête.
Oui.
Beaucoup de jeunes, comme M. Stéphane, On peut faire une recherche intellectuelle de Dieu par son parcours, sa formation, mais devant la croix, il y a ce saut où on abandonne. C'est... Ouais. Et ça, vous ne l'avez pas rappelé. Et puis après, ce qui m'a un peu surpris, vous avez fait comme un retour en arrière avec cette colline où Dieu est là, et puis tous les chemins qui mènent. Ça, c'est déiste. Parce que c'est à la croix qu'on peut rencontrer Dieu à la croix, et pas par n'importe qui. Voilà. Ça, c'est une démarche déiste, comme si vous me rameniez quand vous aviez 25 ans. Voilà, vous n'êtes pas obligé de pas.
Je veux répondre à la dernière, la démarche déiste de la montagne. Non, je n'en parlais qu'uniquement au niveau de l'ensemble de toutes les religions qui peuplent le monde. Je crois que le but est le même.
C'est hein? Ça le problème. C'est, quelle est la position d'un chrétien? Parce que ça se dit. Hein? Je veux dire, Paul Ricoeur
le disait. Oui.
Il y a une théologie quand même protestante qui confirme ça.
Non, mais ce n'est pas la mienne, ça. Je suis chrétien, effectivement, c'est la croix qui m'intéresse. C'est la croix qui focalise mon regard. Mais je suis chrétien dans un monde où il n'y a pas que des chrétiens. Et je ne vois pas pourquoi ceux qui ne sont pas chrétiens seraient... S'il n'y a qu'un seul Dieu, et je crois qu'il n'y en a qu'un, je ne vois pas pourquoi ils seraient abandonnés. C'est à ce niveau-là qu'il y a... Quant à ce que vous me disiez à propos du passage entre le déisme et la croix... Je vous en ai parlé au niveau de cette leucémique, cette petite fille leucémique. Il y a un moment où on ne peut plus refuser le vrai problème. Dieu, il est bien gentil. Le Dieu du déisme, il est bien gentil. C'est le grand horloger, celui qui fait tout. C'est le Dieu des islamiques. C'est le Dieu qui gère, qui a tout. Le plan est prêt. Hein. On ne peut pas en bouger. C'est aussi celui qui tue 100 000 Haïtiens d'un seul coup. Moi, je dis non. Je dis que ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens, le Dieu de Paul, et c'est comme ça que c'est Paul. J'ai compris Paul quelque part. Alors, non, on pourrait parler de conversion. Hein. Ce n'est pas mon cas. Bon, en tout cas, je ne parle pas de ma conversion, mais je parle simplement d'un autre regard sur Dieu, qui me vient d'ailleurs de l'Écriture. Pour moi, la conversion, ce n'est pas. J'ai étudié beaucoup le méthodisme du 19e siècle en France. De Wesley, chacun raconte sa conversion, le moment de sa conversion, le moment où après une lecture biblique, il a tout cela, s'est donné entièrement à Dieu. Ça n'est pas mon cas du tout, du tout. Moi, ma conversion, je la commence le matin en me levant, et je ne l'ai pas finie le soir. C'est ce que disait Barthes, d'ailleurs, tout simplement. Barthes, vous connaissez, le plus grand des théologiens du XXe siècle, d'après le pape, un des papes, je ne sais plus lequel. On lui dit, mais vous êtes un. Vous avez plus écrit que Thomas d'Aquin, vous devez avoir une foi fantastique. Et Barthes lui dit, mais vous rigolez, quand je me lève, je suis complètement athée. Il faut que je rouvre ma Bible le matin et que je recommence à reconstruire toute ma foi, chaque matin. Je suis plutôt de cette catégorie-là de chrétiens. Je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un born of. Un born again, voilà. Mais quelque part, effectivement, je crois qu'un cataclysme comme celui d'avoir en face de soi la mort d'une petite fille programmée, parce qu'elle était, on pouvait pas, je dirais, c'était impensable qu'elle puisse survivre avec une telle lame de sang, ça pose quand même un problème, je dirais, fondamental. Celui de la justice. De la justice de Dieu, de la justice des hommes. Où est-ce qu'on en est là? Et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'en fait, le Dieu qui est sur la croix vient à la rencontre justement de ce genre d'horreur, de deuil, vient nous dire, mais oui, mais moi c'est pareil. Et moi je t'amène à autre chose. Et j'amène cette petite fille à autre chose. C'est-à-dire à quelque chose qui dépasse tout ça par la résurrection, par l'au-delà de la croix.
Est-ce que le livre de Job n'a pas quelque chose à nous apprendre justement sur cette réalité du mal incompréhensible, de la souffrance? Puisque Job, dans la Bible, oui. Il perd sa femme,
oui.
Il perd tous ses biens, et il y a une explication qui est donnée dans la Bible. Comment est-ce que vous le comprenez, ça?
C'est le problème du mal. Le problème du mal, c'est un problème théologique majeur. J'ai peur de rentrer dans un tel débat, parce que c'est un débat, je dirais, il ne faut pas partir de Job, il faut partir de la Genèse, il faut partir du serpent. Si on part du serpent de la Genèse, celui qui corrompt le Adam et qui provoque soi-disant le péché originel, eh ben c'est quand même Dieu qui l'a créé. Dans Ésaïe, il est écrit aussi « J'ai fait le mal ». Dieu est créateur du mal. Mais alors le mal, c'est quoi? C'est en moi. Vous croyez au diable? Moi, pas. Je crois que le mal m'habite. Je crois que je suis un être du mal. Le mal ne m'est pas extérieur. Mais je ne peux pas dire par rapport à Job.
C'est, c'est aucun moment dit quand même dans la Genèse que Dieu est créateur du mal. C'est aucun moment dit que Dieu est créateur du mal.
Non, il est créateur du serpent. Dans la Genèse. Le serpent. Mais c'est le serpent qui est l'auteur de ce qui va être le mal. Ou en tout cas la désobéissance. Donc le péché.
Donc vous pensez que finalement c'est Dieu qui a voulu le mal?
Je crois quelque part. Il l'a voulu. C'est toujours pareil, mais
c'est
aussi...
Dans ce cadre-là, on pourrait dire que Dieu a voulu aussi la mort et la souffrance à Haïti.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il veut que le mal soit en nous de manière à nous permettre le choix. Mais en même temps, Haïti, c'est autre chose. Le tremblement de terre n'est pas un mal, n'est pas le mal. C'est un tremblement de terre.
Non, mais la mort qui s'ensuit, c'est quand même le mal.
La mort qui s'ensuit, c'est le mal, oui.
Et le tremblement de terre, en général, engendre, sauf tremblement de terre exceptionnel sur la terre, engendre la mort.
Oui, mais il y a beaucoup de choses qui engendrent la mort. Il y a aussi des choses. Mais c'est difficile d'en parler. C'est un autre sujet. Hein. C'est un sujet qui mériterait un vrai long débat. Mais en tout cas, je ne place pas le mal hors de moi. Je crois que c'est beaucoup de gens qui le font. Ils le mettent dans le diable, un diable improbable, de manière à ce que ça puisse justement les déculpabiliser. Je crois qu'il faut le prendre en soi. Et puis quelque part, le confier au Seigneur. De manière à ce qu'il nous en débarrasse. Et livre-nous du mal.
Et la réalité de la croix, alors c'est quoi en fait? L'œuvre de la croix, c'est quoi pour vous?
L'œuvre de la croix, c'est la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Les catholiques s'arrêtent à la croix. Moi, je voudrais qu'on aille jusqu'au bout. Un Christ crucifié est ressuscité. Derrière la croix, il y a la résurrection. La croix, pour moi, c'est une clé. C'est celle du royaume. Il y a derrière cette croix, je dirais, la vraie espérance du chrétien.
Qui est la résurrection.
Qui est la résurrection.
Donc, Christ vainqueur de la mort.
Oui. Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres marques, Stéphane?
Je vais vous poser une question. Est-ce que vous ne croyez pas que si finalement le protestantisme est une coquille vide, c'est que finalement, face à ce scandale du mal et face au scandale que ça représente, il a une tendance à adapter son message pour le rendre rationnellement plus ou moins acceptable et finalement déculpabiliser l'homme, le fait que justement ce soit lui le pécheur et qu'il ait besoin de repentance vis-à-vis du péché. Et que ce soit le fait que finalement le protestantisme à chaque fois s'adapte vis-à-vis du scandale plutôt que de prêcher la repentance et le retour à Dieu, et que finalement s'il y a le mal, c'est l'homme qui en est responsable.
Ce que Jean-Baptiste et Jésus disaient d'ailleurs, repentez-vous.
Oui.
Et finalement le protestantisme, en n'acceptant pas finalement le scandale que ça représente aux yeux du monde, d'affirmer une chose aussi folle, aussi scandaleuse, finalement se vide de sa substance, et que c'est justement dans ce côté vraiment véritablement anticonformiste qui est au bon niveau qui est fondé sur la parole, qui fait justement la cercle protestantiste, et que s'il se vide de sa substance, c'est qu'il n'assume pas son message.
La notion de mal, par exemple, l'acceptation de la notion de mal, par exemple, quand je fais un catéchisme, c'est très difficile de parler du mal à des petits. Et les parents n'en parlent pas. Et il n'y a pas très longtemps, je me rappelle d'une histoire qui a eu lieu dans une banlieue où il y a une gamine qui a été brûlée vive dans une poubelle par son copain qui n'arrivait pas à coucher avec elle. Quand on a pris le type, on lui a posé des questions, il dit « Mais où est le mal ?» La notion de mal, c'est une notion qui est très chrétienne aussi. Hein. Elle n'existe pas dans certaines autres religions, comme le bouddhisme. Cette notion de mal, si on ne l'apprend pas aux enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Le nombre de personnes qui se posent la question du mal en Cévennes actuellement, c'est effectivement par rapport à Haïti, mais par rapport à soi-même. C'est vrai que le chemin de la repentance est le chemin.
Justement, c'est ça. Est-ce que le protestantisme prêche encore ce
oui.
de repentance
oui.
et de responsabiliser l'homme?
Oui. Mais alors le problème, c'est qu'il faut arriver à responsabiliser sans culpabiliser. Parce que justement, quand on vit de la grâce, on ne peut plus vivre de la culpabilité. Luther disait « pécheur et pardonné ». En même temps, je suis pécheur et je suis pardonné.
Il faut quand même avoir conscience de son péché.
Oui.
Ce qui déculpabilise, c'est quand même la grâce, c'est pas nous-mêmes qui nous
déculpabilisons. Non, c'est ça.
Est-ce que le risque, c'est pas souvent qu'on veut soi-même déculpabiliser l'homme, que le prédicateur, l'autorité ecclésiale veut déculpabiliser l'homme, et finalement il prend la place de Dieu. Car c'est Dieu, par sa grâce, qui déculpabilise l'homme. L'homme est placé face à son péché, et face à ce péché, il est désespéré. C'est l'expérience typique de Luther et de Calvin. Et alors, il trouve refuge dans la grâce. Et la grâce le déculpabilise. Est-ce qu'il n'y a pas cette tendance aujourd'hui, quand même, à vouloir, dans le message, par avance, déjà déculpabiliser, au lieu d'annoncer la parole et d'annoncer la grâce, alors qu'il déculpabilise? Mais ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu.
Un prédicateur ne dit jamais « je vous donne ma grâce ».
Oui, mais est-ce qu'il n'a pas tendance à vouloir déculpabiliser, justement?
Si quelqu'un en face croit en Dieu et que je lui dis « Dieu te fait grâce », il me croit. Après tout, quand j'accueille quelqu'un, j'accueille avec les mots de l'Apocalypse. « Grâce et paix vous sont donnés. » De la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est grâce et paix qui sont donnés de la part, de ou par. Le prédicateur n'est jamais quelqu'un qui porte une parole à lui. C'est une parole qu'il ne lui appartient pas, qu'il essaye de mettre en mots pour les autres. Mais cette parole ne lui appartient pas.
Est-ce que le prédicateur pourrait aller jusqu'à dire, comme Paul, vous êtes déchu de la grâce?
Non. Moi, je ne le dirai pas.
Ou comme Jésus, race de vipère.
Non, parce que je crois que ça s'est inclus dans un... Quand on tire un petit truc comme ça... Il faut lire l'ensemble du texte. Non, mais je dis ça parce que... Alors, les catholiques et les évangéliques de Rousse, ils font pareil. Ils me donnent des petits morceaux de... Hein, des petits morceaux de... Il faut que je me débrouille avec ça pour essayer de les contredire. Il n'y a qu'une manière de les contredire, c'est de lire le texte en entier. Moi, je crois à la grâce. Je crois que nous vivons de la grâce. Mais je le crois parce que je me sais pécheur. Mais dire aux enfants « vous êtes pécheur », ils me disent « ça veut dire quoi ?» Ils ont beaucoup plus besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de salut, les enfants. Ils ont besoin de sens dans leur vie, de savoir où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils savent, ils n'ont rien devant eux, pas d'avenir, pas d'espérance. Tout le problème est là, c'est d'arriver à leur dire, sans les culpabiliser, « vous savez que vous êtes pécheur ». Alors, à Florac, c'est la rigolade. Vous savez qu'il y a la source du péché, à Florac. Et il y a la rue du désir qui mène au péché, à la source du péché. Venez à Florac, c'est pas mal. Il y a beaucoup à voir. Tous les chemins mènent à Florac. Il n'y en a que deux.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, Étienne?
Oui, vous avez fait allusion tout à l'heure à l'expression « born again », à laquelle je donne... parce que c'est le sujet de controverse souvent, enfin contre-attentif plutôt, c'est le sujet de critiques qui sont souvent d'ailleurs justifiées sur ce formalisme un peu vide, sur cette façon d'aborder la vie chrétienne de façon un peu systématique. Mais malgré tout, je pense que l'annonce par Jésus-Christ de la nouvelle naissance, quand il en a parlé à Nicodème, c'est quand même quelque chose de fondamental, qu'on retrouve aussi dans Paul, quand il parle de la vie de résurrection. Et personnellement, moi je suis issu de l'Église réformée, je ne suis pas resté, mais enfin j'en suis issu. Et j'ai, rétrospectivement, je remarque que j'ai quand même beaucoup souffert de ce manque de la prédication sur la nouvelle naissance dans l'Église réformée. Alors, je voudrais savoir comment vous vous situez par rapport à cette prédication de la nouvelle naissance.
Je crois qu'effectivement, le fait de savoir qu'on est aimé de Dieu, que de savoir que le Seigneur nous gracie, quoi que nous ayons fait, et quel que soit le degré de notre péché, je crois de simplement de vivre de cette grâce de Dieu est déjà une nouvelle naissance. Mais je ne veux pas admettre qu'on associe une nouvelle naissance et conversion, alors que dans la conversion est aussi partout dans la Bible, hein. Mais moi, le phénomène de conversion comme celui de, les églises du réveil du 19e siècle que j'ai un peu étudié, ça, c'est pas mon truc du tout. Mais je prêche la conversion. Je prêche la nouvelle naissance. Je la prêche parce que c'est d'abord biblique, mais la réponse est différente selon les gens. Et ça, je crois que les gens peuvent l'appréhender de manière tout à fait différente. Quelqu'un peut se dire, si je me sens vivre de la grâce de Dieu, je pourrais vivre autrement, disons, mieux ou différemment. Je pense qu'on n'est jamais indemne quand on se met vraiment et en toute sincérité à l'étude du texte. Nouvelle naissance, naître à l'esprit. Enfin, disons, d'avoir une vie mystique, pas mystique, mais une vie spirituelle. C'est ça, la nouvelle naissance. Accepter d'avoir autre chose qu'une vie simplement bêtement matérielle, je dirais.
L'apôtre Paul l'a décrit comme la vie de Christ en nous.
La vie de Christ en nous, oui. Voilà. Oui, mais alors là, oui. Alors là aussi, prêcher ça.
Vous l'avez prêché.
Oui, mais vous savez combien j'ai de personnes dans le temple après ça?
Ah ouais.
Il faut se méfier des gros mots du protestantisme. Et ça, c'en est un. Il faut se méfier parce que c'est des mots complètement... qui n'ont perdu toute substance. Pour nous, non. Mais pour les gens qui viennent de passage, alors c'est le patois de Canaan, c'est des Christ en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
C'est fondamental.
L'espérance, oui. Mais ça, l'espérance, on peut la comprendre. C'est ce que je dis toujours quand j'enterre quelqu'un. L'espérance, c'est la dernière chose qu'un être humain abandonne avant de mourir. Parce que même à 5 minutes avant de recevoir l'injection létale, quelqu'un espère toujours pouvoir être sauvé. L'espérance, c'est fondamental chez l'homme. Mais Christ en soi...
D'éclaircissement.
J'ai compris la première, la deuxième.
Oui, la première, c'est la puissance de Dieu.
Oui.
Là, vous dites que Dieu n'était pas puissant.
Oui.
Et là, je
il n'est pas tout puissant.
Il n'est pas tout puissant, oui.
Pas tout puissant.
Oui.
C'est une certaine théologie.
Oui, non, mais ça, je peux mieux expliquer. Et la deuxième, c'est.
D'abandonner le texte biblique au profit de la science. Vous avez parlé de l'importance de l'exégèse et ainsi de suite.
Bon. Je dis que Dieu, il est ce qu'il est. Je veux dire, quand Luther a dit qu'il y avait le Dieu inconnu, le Deus absconditus, qu'on ne connaît pas, et puis il y a le Dieu révélé, qui est celui de la croix. Alors celui qui est là, que je ne peux pas connaître, parce qu'il ne se montre pas. Et puis il y a le Dieu qui se montre en Jésus-Christ, qui est le mien. Et celui-là, il est crucifié. Je crois que Dieu n'est pas tout-puissant, parce que s'il était tout-puissant, il serait pervers. Il aurait du plaisir à faire du mal. Et oui. La toute-puissance, c'est ça. D'autre part, vous ne trouverez pas le mot tout-puissant dans la Bible. Ou alors, c'est une mauvaise traduction. Il y a une seule fois où il y a écrit Pantocrator, c'est dans l'Apocalypse. Et Pantocrator, c'est quelque chose qui veut dire effectivement de l'ordre de la toute-puissance. Mais n'oublions pas que la toute-puissance, là je ne vais pas vous faire un cours de psychologie, mais la toute-puissance, c'est ce que ressent l'enfant devant son père qui sait tout, qui peut tout, qui est capable de tout. Je crois que nous avons à passer ce cap, de faire passer l'image qu'on a de son père dans un Dieu adulte, quand on est adulte, et de voir ce Dieu tout-puissant. Peut-être qu'il l'est pour vous, pour moi, il n'existe pas.
Il est omniprésent, donc il est tout puissant.
Peut-être. Je ne vous interdis pas de penser du tout. Pour moi, il est uniquement, le seul endroit où je peux le voir et le connaître, c'est sur la croix. Je n'ai pas d'autre lieu de connaissance de Dieu.
Et ressuscité.
Et ressuscité, la croix et la résurrection. Donc, la résurrection, elle m'échappe aussi. Hein. C'est vraiment que la croix qui me permet de fixer mon regard sur Dieu. Je n'ai pas d'autre lieu. Quant à la Bible, vous dites qu'on ne peut pas lire la Bible. Non ? Mais non, mais qui vous parle de l'enlever ?
Si on délaisse ce qui est écrit.
Mais on ne délaisse pas. Je dis simplement qu'il faut en faire l'exégèse. C'est-à-dire qu'il faut le regarder. Il y a plusieurs lectures de la Bible. Moi aussi, je fais plusieurs lectures. Quand je fais, par exemple, quand je prépare une prédication sur un psaume, je lis le psaume. Je le lis et puis je note les choses que je ressens par rapport à ma lecture. Et puis après, je regarde des commentaires pour savoir quand il a été écrit, par qui, pourquoi, où, quel est le sens global de ce truc. Et après, je fais ma prédication, j'étudie aussi un petit peu, je pars aussi de ce qui se passe dans ma paroisse, de manière à pouvoir coller aussi aux besoins des gens, et j'en tire ma prédication. C'est-à-dire que je fais un travail qui est un travail, je dirais, de méditation, tout simplement, et un travail d'exégèse, c'est-à-dire je tire quand même de ce texte quelque chose qui est de l'ordre de la réalité scientifique, historique, historico-critique, si vous voulez. Je sais. Mais ça, vous m'empêcherez pas de la faire. Mais je crois qu'on peut faire les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on peut lire la Bible, je dirais, sans la travailler du tout. Hein. C'est déjà un très beau texte et ça apporte énormément. Il y a des textes, d'ailleurs, qui ne sont pas sujets à l'historico-critique. Quand je lis « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle », ça n'est pas accessible à la science. Ça n'est accessible qu'à la foi. Mais quand vous lisez le livre des juges, je vous assure que vous avez besoin de la science.
Oui.
Moi, je me demandais comment ça se passe sur Florac, concrètement, au quotidien. Parce que vous parlez, vous enterrez beaucoup de monde, et vous dites quelque chose qui choque. Il y a quand même une base de fidèles
ou... Oui.
Parce que ça compte quoi ? Il y a 10 personnes plus
au culte le dimanche ?
Par exemple.
Moi, je crois que c'est partout pareil. Hein. Un culte un dimanche normal, comme celui dimanche dernier, par exemple, il y a 15 à 20 personnes. Ce qui n'est pas si mal, hein. Je veux dire, c'est quand même...
En église, il n'y a que vous sur Florac ?
Comme pasteur ? Non, il y a un petit noyau d'évangéliques, et puis il y a l'église catholique, mais ils sont aussi malades que moi. Hein. Oui. Non, je ne vais pas me plaindre, hein, je veux dire, par rapport à d'autres grandes villes, par exemple, je trouve qu'on a des cultes qui sont plutôt...
Et ça vous brille de ne pas pouvoir parler parfois franchement, d'aborder certains thèmes qui pourraient être sensibles pour les...
Oui. Oui, je crois qu'il y a des thèmes sur lesquels je préfère ne pas me pesantir. Simplement parce qu'ils n'ont pas comme moi la culture théologique que j'ai appris à la faculté de théologie. C'est tout, hein, je veux dire, c'est pas... Il y a une liturgie dans l'Église réformée que j'aime beaucoup avant la prédication. On commence par lire la loi de Dieu. Cette loi nous amène à la repentance, comme dit Paul d'ailleurs, c'est la loi qui est notre miroir, où on voit, par la loi on voit notre péché. Donc ce péché, on se repent, et on reçoit le pardon de Dieu par une parole de grâce. Alors ça j'insiste beaucoup, j'explique chaque fois, de manière à ce que les gens sachent que c'est toujours la même chose, qu'en fait c'est ça le christianisme, c'est une loi, le péché qui est la désobéissance à la loi, et le pardon de Dieu qui permet de recommencer à vivre. Et après la prédication, qui peut être sur n'importe quel sujet. Puis les sujets ne sont pas toujours... Je suis le plus possible le lectionnaire, là, qui est commun avec l'Église catholique. Je le fais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le texte avant de venir au culte, et que la prédication leur permet de, de, de suivre un peu mieux ce qu'ils ont, de comparer ce qu'ils ont lu et leur compréhension du texte avec ce que je leur dis.
Ils ont besoin d'être confrontés, tout chrétien a besoin d'être confronté à la vérité
oui.
De la parole.
Quoi. Oui, oui, oui.
Donc, je parle par rapport au sujet que éventuellement vous évitez. Ça les bride un petit peu, peut-être.
Ça les bride, mais vous êtes prédicateur ? Non, je vous pose la question parce que moi en tout cas, en tant que prédicateur, je peux vous dire que la prédication est une authentique, comment on appelle ça, c'est extrêmement grave comme geste, c'est une responsabilité fondamentale. Je pense toujours que c'est effectivement une parole qui vient, qui a été inspirée de Dieu. Quelque part, Dieu parle là. Et cette parole, je n'ai pas le droit de la détourner. De dire le contraire de ce qu'elle dit, ou en tout cas à côté de ce qu'elle dit. Mais il y a des paroles qui sont lourdes, race de vipère par exemple, ou même celle, il n'y a pas très longtemps, là, à propos de Luc 3 que j'ai eu à prêcher, c'est pas simple. Hein. Alors évidemment, on n'est pas forcé non plus de taper dans le mille et puis de prêcher que ça. Quand c'était l'annonce de celui qui vient, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa peine à vanner à la main pour nettoyer son air et pour recueillir le blé dans son grenier, mais là-bas, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Allez prêcher ça, vous. Enfin, moi, j'hésite. Il y a autre chose derrière qu'on peut dire aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Oui.
Vous avez dit par rapport à l'ARF que vous étiez libre, c'est pour ça que vous êtes mis pasteur chez vous, ça veut dire quoi ?
La liberté ? Pour moi, c'est la liberté d'interprétation du texte, déjà. Quelqu'un d'abord, c'est l'Église qui nous reconnaît comme pasteur. Hein. Il n'y a pas d'autre chose. C'est l'Église, c'est pas Dieu qui... ceux qui m'ont accepté comme pasteur m'ont donné la liberté d'interpréter le texte. Sachant que je l'interpréterai avec les lunettes de l'Évangile et l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est un acte de confiance qui me laisse entièrement libre, mais comme toute liberté, il faut qu'elle soit, je dirais, utilisée à bon escient. Hein. Et j'aime cette liberté parce que effectivement, si je n'ai pas envie de traiter un texte du jour parce qu'il ne me plaît pas, j'en prends un autre qui me plaît mieux. Parce que aussi il y a un problème dans la paroisse qui fait que le texte du jour n'est pas bon, il ne correspond pas à l'ambiance, à ce qui s'est passé. S'il y a un deuil important, un accident sur la route à côté là, il faut parler de choses qui soient des porteurs d'autre chose, de porteurs de.
Est-ce que l'institution réformée donne une lecture à suivre annuelle ?
Oui, mais on n'est pas obligé de la suivre du tout. Hein. C'est un canevas, c'est un. Une proposition. Oui, ça c'est. Mais je connais des pasteurs qui font l'évangile de Marc au suivi. Hein. On fait ce qu'on veut. L'essentiel, c'est qu'on fasse passer le message, c'est que l'évangile pénètre un peu les cœurs, c'est qu'on avance un peu, c'est que le christianisme ne meurt pas complètement.
Et on vous est un petit pasteur, à partir du moment où vous avez fait une formation de théologie sur une base.
Si j'ai fait une...
Donc pour être pasteur,
oui.
Après on vous dit vous êtes pasteur parce que sur quelle base ? Parce que vous avez fait
alors,
une faculté de théologie.
Il y a la faculté de théologie, là, donc il faut faire 4 ans après le bac. En maîtrise de théologie, après la maîtrise, on fait un DESS, qui est donc une pratique. Et donc on est en stage. À la fin du stage, on reconnaît ou non si... la personne peut être acceptée comme proposant, c'est-à-dire comme futur pasteur. À ce moment-là, on devient salarié. Au bout de 2 ans de proposanat, dans une paroisse, on est accepté comme pasteur ou pas. Et à ce moment-là, on reste encore 3 ans dans la paroisse pour être 5 ans, et après, on a le choix d'aller où on veut, enfin, là où il y a une place. Et on est reconnu dans la paroisse où on a fait le proposanat. Moi, j'ai été reconnu à Bagnols-sur-Cèze, à Chartreuse de Valbonne.
Je vais apporter juste une précision historique pour ceux qui connaissent mal et qui savent pas. l'Église réformée s'est bâtie sur cette liberté en 1905, sur le fameux préambule.
Oui.
C'est fondateur.
C'est fondateur, oui.
Et c'est ce qui a été contesté par d'autres églises.
Oui.
C'est cet élément qui est quand même le cœur de oui. ce que vous avez bien décrit.
La lettre ou l'esprit. S'attacher à la lettre ou à l'esprit. C'était les deux mots qui faisaient problème en 38.
La lettre et l'esprit de la déclaration de foi.
Oui, voilà. Oui, oui, de la déclaration de foi de 1872 ou 13.
Ça, c'est un travail de pasteur normal, d'aller visiter les gens qui en ont besoin. Mais la visite est aussi une visite de vitesse. Il y a des gens qui sont très contents de vous recevoir et qui vous offrent le café, le thé et les petits croissants. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'une prière, qui ont besoin d'une lecture, qui ont besoin d'un entretien spirituel. Moi, j'essaye de faire le plus possible de rencontres, comment pourrait-on dire, de rencontres événements. Parce que ça mobilise les gens, ils viennent. Mais alors c'est un... Il faut les bouger. Hein. Ça fait 3 ans que je suis là, j'ai fait un synode, j'ai fait une exposition biblique, je leur ai refait le temple, et ça ne bouge pas. C'est toujours un... Alors il y a le soufflet, il monte, mais pfft, plus rien. Là, on va faire l'inauguration du temple de Florac. Il y aura une exposition, une conférence, une chorale, un grand culte le lendemain, il y aura un monde fou, le temple sera plein. Le dimanche d'après, il n'y aura plus personne. Alors, je fais des veillées aussi, je vais dans les petits villages, dans une maison. Alors, on m'offre le repas, puis après, je fais la veillée. Alors, ça peut être sur n'importe quoi. Je l'ai fait sur le diable, par exemple. En leur expliquant par A plus B, et historiquement, dans la Bible, que le diable n'existe pas. Parce que ça peut se faire.
D'autres pourraient prouver historiquement et par la Bible qu'il existe.
Oui, mais là, je demande à ce qu'on ait.
On est face à un problème théologique, là, je pense. Tout comme le problème de la théologie de la toute-puissance de Dieu.
Oui, oui,
c'est aussi
fait,
une question de théologie.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres.
Je vous pose une question par rapport. Vous connaissez l'association c'est Quoi de Neuf.
Oui.
À Florac.
Oui.
Et il y a un foyer.
Oui.
Il y a un foyer des EF. Vous entreprenez quelque chose par rapport à. Je sais qu'il y a beaucoup de passages dans ce foyer.
Oui.
Vous entreprenez quelque chose. Vous essayez d'avoir un contact avec ces personnes.
Non, pas plus.
Non,
il faut dire que j'ai un conseil presbytéral un peu particulier. Cette année, pour moi, j'ai décrété que ça serait l'année de la diaconie. J'ai posé la question à Nîmes, non, à Mende. À Mende, le conseil presbytéral est tout à fait d'accord pour, par exemple, prêter les locaux à des dissidents ou à des gens qui n'ont pas de papier ou des trucs comme ça pour les cacher de la police. Ce qui est pas mal, d'ailleurs, je trouve que c'est s'il faut le faire. À Florac, non, c'est pas la peine, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout, ils ont quelque chose pour loger les gens, ils ont les Restos du Cœur, ils ont la Croix-Rouge, ils ont l'entraide catholique, etc. Ils ont tout ce qu'ils veulent, hein, tout.
C'est bien desservi, mais ouais. Il y a aussi, je suis déjà passé dans ce foyer, je sais qu'il y a pas mal de passages,
ouais,
je
oui.
suis passé plusieurs fois,
ouais.
Et je trouve que quand même reste le lieu est assez propice à une conversation,
oui, 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 oui.
Et puis les gens en général, ils sont... J'ai vraiment été pas mal de fois et les gens qui passent sont assez calmes, surtout dans la région, c'est des gens pas spécialement...
Oui, vous avez raison, c'est un lieu d'évangélisation possible. Mais je vais vous dire, quand je dis que ma paroisse, le PPP, le poste pastoral prunier, concerne 5 églises, va depuis Saint-Chély-d'Apché jusqu'à Saint-Privat-de-Valongue, et dessert non seulement ces 5 paroisses, mais en plus l'aumônerie de l'hôpital de Florac, l'aumônerie de la maison de retraite du Réjal, l'aumônerie de certaines maisons de retraite et d'hôpitaux de Lozère, j'ai des priorités. Et il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc plutôt que de commencer quelque chose et puis de ne pas le faire, de mal faire, je préfère laisser ça à mon successeur, et puis qui lui aura d'autres priorités. Mais vous avez raison, c'est des lieux qui sont des lieux de... Mais en même temps, je ne me fais pas de soucis, parce qu'ils sont pris en charge, physiquement. Ouais. Mais il y a tellement à faire, vous savez bien, si on veut. Hein? Ah ben avant, ils étaient juste en face du presbytère. Alors il y a quelquefois des gens, ils se trompaient de porte. Oui, mais maintenant. Non, par contre, je fais quelque chose avec le catéchisme. Plutôt que de leur apprendre un texte biblique, on fait un catéchisme en 1 heure et demie. La première demi-heure, je leur parle de texte biblique sur le sujet qui va être développé. Et la fois d'après, enfin la heure qui suit, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur qui vient nous raconter. La dernière fois, on a eu le président du Resto du Cœur qui est venu leur expliquer ce que c'était que les Restos du Cœur, comment ça fonctionnait. Ça les a un petit peu interloqués, parce que là, par contre, ils ne savent pas que ça existe. Dimanche prochain, là, ça va être la Croix-Rouge qui va venir raconter ce qu'ils font, pour qui, comment, avec quoi. C'est des choses qui, je crois, ça va amener cette notion de péché. Parce que là, on peut en discuter à partir du moment où on est en face des réalités de la vie. Voilà le genre de choses que fait un pasteur dans une paroisse. Mais tous les pasteurs sont différents et toutes les paroisses sont différentes. C'est-à-dire vous n'aurez jamais un cas typique.
Question ?
En fait, par rapport à votre parcours, vous avez dit que vous travaillez en laboratoire.
Oui.
Mais est-ce que vous assistez à des cultes, par exemple ?
Non.
Non ?
Non.
Mais je voulais savoir aussi, c'est à quel moment aussi que vous avez eu la foi ? Par exemple, vous avez dit que vous avez voulu répondre à des questions, que vous êtes allé à la fac, mais c'est à quel moment que vous avez eu envie de donner la parole dans le sens que pas de s'occuper de personnes, mais de donner justement un enseignement biblique. C'est à quel moment que vous avez eu la foi, le Seigneur, vraiment.
Je crois que j'ai toujours cru en un Dieu, mais j'ai jamais voulu croire en un Dieu tout-puissant. Parce qu'il me, un Dieu tout-puissant, pour moi, c'est un Dieu impossible. C'est un seul Dieu des... Non, je peux pas croire à un Dieu tout-puissant.
Bon, ça, c'est une théologie, quoi.
Oui, oui, préciser, mais même... Je,
non, mais c'est une théologie très particulière.
C'est plus que ça.
C'est pas toute la théologie.
Avoir un Dieu comme ça, qui est quand même insupportable, quelque part. À tout savoir, tout connaître, tout faire, être responsable de tout, y compris de ma mort, non. Non, j'avais besoin d'autre chose. Mais je croyais en Dieu. Mais je n'avais pas d'explication sur ce que c'était que le christianisme. Et je n'allais pas particulièrement au culte, non. Je ne savais même pas que j'étais protestant, en fait. Ma mère est catholique. Et mon père est protestant, mais dans la famille, on n'était pas concernés.
Quand vous prêchez, par exemple, vous devez rendre des comptes à quelqu'un, par exemple, un frère qui vous dit je trouve ça que c'était pas trop bien, qui vous donne des conseils.
Alors là, j'ai la chance d'avoir une paroisse qui me fout la paix. Je sais qu'il y a des pasteurs qui ont quelquefois des retours comme ça qui sont extrêmement pénibles. Quand j'étais à Bagnols, je recevais des lettres. C'est très désagréable. Très désagréable. Parce que c'est justement une preuve de manque de confiance.
Mais vous ne pensez pas que c'est plutôt la nature du message qui ne les attire pas, qui ne les fait pas justement rester ? Par exemple, une personne qui cherche des réponses, quelque part. Il y va, il reçoit une réponse, il y reste. Mais une personne qui ne reçoit pas de message, ça veut dire qu'il y a un problème avec le message lui-même.
Oui.
Que la personne qui interprète mal.
Mmh. Bah, ça, en général, ce sont des gens qui reviennent me voir après. Parce que je fais aussi des études bibliques. Alors c'est un lieu où effectivement les gens peuvent venir pour poser des questions. J'ai fait une permanence tous les jeudis matin pour tous ceux qui ont des problèmes. Ces temps-ci, c'est d'un calme redoutable.
D'autres marques, questions ?
Moi, je veux savoir quel est votre rapport en tant que chrétien, et d'autant plus en tant que pasteur, à la Bible. Vous parlez de bibliolatrie. Pour un chrétien, la parole, c'est quand même ce qui amène à la foi. Et donc, est-ce que pour vous, c'est un livre ? Surtout en tant que protestant, il y a un attachement à la parole qui, les protestants sont battus pour la traduction, sont battus pour être servis.
Oui.
Et pour vous, est-ce que c'est un livre quand même saint, supérieur, ou est-ce que c'est un livre comme un autre que
On retombe sur la même question que tout à l'heure, là, sur le rapport à la Bible. le sola scriptura de la réforme, en fait, seule la Bible. La Bible est pour moi normative. Elle guide ma vie. Mais elle est un livre écrit dans un contexte qui n'est plus le mien. J'ai donc un devoir de traduction. J'ai un devoir de traduction de l'hébreu en français du 21e siècle. J'ai un devoir de traduction de certains concepts qui n'existent plus, mais qui existent autrement maintenant. C'est pour ça qu'on ne peut pas, je crois qu'on n'a pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissances bibliques particulières, qui rentre dans ce texte, il fuit, il ne peut pas lire. Il y a des choses qui sont illisibles. Il a essayé de lire le livre des juges sans préparation. Je relis ce livre parce que c'est un livre qui est extraordinairement difficile. Les psaumes aussi ne sont pas faciles d'accès. Même les évangiles ne sont pas faciles d'accès. Oui, mais comment ? Sous quelle forme ?
Sous la forme, premièrement, de la lecture, et ensuite, effectivement, de quelqu'un qui peut éclairer. Mais
voilà.
Un chrétien peut se nourrir même de la foi, et c'est ce qui faisait aussi le protestantisme, c'est que chaque chrétien peut ouvrir la parole et s'en nourrir.
Oui. Oui, à condition d'avoir une préparation. C'est ce que dit Paul, d'ailleurs. Paul dit quelque part, la foi ne peut venir que par la prédication. On ne peut avoir la foi que si on l'a entendue. Et c'est qu'en l'entendant qu'on peut vivre cette foi et donc pénétrer dans le texte. Je crois que de prendre le texte et de le lire en se disant « je vais lire la Bible tout entière et comme ça je connaîtrai Dieu », c'est un piège. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est un livre compliqué, très difficile. Et vous savez, le christianisme, c'est une histoire très, très dure aussi. Hein. Ça a été des bagarres autour d'interprétations mauvaises de certains textes. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement, extrêmement honnête. Il faut être aussi un peu croyant pour lire la Bible. Parce qu'il faut aussi avoir ce regard, ces lunettes, qui disent, c'est un Dieu d'amour qui m'a dit ça. C'est pas un Dieu... J'avais un grand-père qui croyait pas, il m'a dit en lisant les évangiles, mais pour moi, Jésus, c'est un chef de bande d'une bande de galopins. C'est une lecture possible. Je crois que quand on lit la Bible avec ces lunettes de l'évangile, de la foi... On est dans le bon, on est avec le Saint-Esprit, auquel on croit, on est dans le bon. C'est ce que dit la Réforme. Hein. Mais il faut une préparation. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, c'est pour ça qu'il y a des études de théologie. Quelqu'un qui prêche sans savoir, sans c'est quelqu'un qui peut se tromper.
Oui, je suis assez d'accord avec vous sur cette analyse et cette approche. Et de l'autre côté, c'est l'approche de tous les profs de fac. Et c'était l'approche du catholique du XVIe siècle. On ne pouvait pas lire la Bible tout seul, sans l'Église, sans la prédication, sans la tradition. Alors, c'est ce qui est un petit peu, enfin pour moi, je crois, qui est un petit peu tourné. Enfin, à la fois, je suis pour une lecture seule, des gens simples ont découvert la foi, le Seigneur, le salut. Par le texte, je pense à ma mère, qui ne savait pas Israël, les juges, avait une foi qui l'accompagne. Donc il y a cette lecture-là pour laquelle les protestants du XVIe siècle sont battus du XVIIe. La Bible seule la Bible, seule la foi, seul cheval. Et puis il y a une approche, alors actuellement, cette approche-là, c'est une approche universitaire. Ce n'est pas la seule. Et c'est une approche catholique, c'est ce qui me la rend un peu douteuse. Du 17e. On ne va pas laisser la Bible dans les mains de tout le monde, on ne va pas la traduire d'abord, puisque la terre va la protéger. Et c'est Luther qui a mis quand même la Bible à la portée du peuple.
Oui.
Alors qu'actuellement, le discours que vous faites, que j'ai entendu par des profs de fac, etc., la Bible a besoin d'interprétation, la Bible a besoin d'une approche historique, critique,
oui.
Comme si le texte n'avait pas. On n'avait pas d'accès direct au texte. Et ça, je pense que c'est redoutable. Les deux sont redoutables.
Oui.
Celui qui s'empare de la Bible pour faire des théories, puis pour lâcher des trucs, des inepties, c'est aussi redoutable. Mais cette position aussi, le texte n'est pas accessible directement, parce que toutes les sociétés bibliques, Wycliffe, tout ça, leur but c'est de mettre la Bible dans les mains de tout le monde, de l'Africain. Bien sûr que un gars qui a mis de l'article, l'agneau, la vigne, tout ça. C'est... Et alors là, c'est vrai que c'est une culture. Comment traduire un agneau isolé? Ça a été des problèmes de traduction. Et pourtant, je pense qu'il y a ces deux approches.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Cette approche de la parole, comme vous la décrivez, que les églises se vident, et que dans les lieux où la parole est prise, comme au XVIe siècle, on a quand même, on remarque quand même qu'il y a du monde qui assiste, des jeunes qui se convertissent, même si on n'est pas trop géant.
Oui, oui.
Il y a quand même une réalité là qu'on peut constater.
Je trouve ça excellent. Je vous remercie de m'avoir remis sur ce sujet. C'est intéressant. Je reviens simplement sur le fait de ne pas me comparer à un curé. Pour une simple raison, c'est que le curé... Oui, mais même le 17e.
C'est pire, ça,
c'est... Et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est l'Église qui est derrière. C'est l'Église qui est derrière et c'est l'Église qui est autorisée. Alors que moi, je suis simplement quelqu'un qui est effectivement quelqu'un d'universitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études. Et c'est à ce titre-là, simplement, que je me pose en garant d'un texte. Je n'empêche personne de le lire, comme il le veut. Hein. Je dis simplement, venez plutôt à une étude biblique qu'on en parle. Que ce n'est pas la peine de se flanquer dans des chemins de traverse quand on peut avoir le sens directement. Il y a ça. Il y a aussi le fait que ce débat n'est pas nouveau. Je suis en train d'étudier le méthodisme du 19e siècle. La grande bagarre entre les orthodoxes et les libéraux du 19e, c'est autour de savoir qu'est-ce que c'est que ce texte. Alors quand vous avez M. Gossens qui dit avec sa théopneustie que de toute façon, c'est Dieu qui a écrit le moindre texte, la moindre lettre du texte, là on est dans la logique du Coran et de tous les fanatismes. Alors je dis attention, simplement, attention. Je ne nie pas, je ne le nie absolument pas, que la lecture directe de la Bible soit inspirante, parce qu'elle est inspirée. Je dis simplement, faites attention.
Attention au littéralisme.
Attention au littéralisme. Et si vous avez un pasteur pas très loin, ben, profitez-en, c'est tout. C'est simplement des études qu'il a faites qui lui permet peut-être un peu mieux de décortiquer cette délicieuse noix. Que si on la mange comme ça, elle est dure pour les dents. Parce que pour moi, c'est ça la Bible, c'est une noix. Dedans, c'est excellent, mais il faut enlever l'écorce.
C'est une belle image, on va peut-être finir par cette image. Merci beaucoup. Merci à vous.